Chers auditeurs, chères auditrices, nous continuons la deuxième série concernant l'amour de Dieu. Et nous sommes donc dans un livre particulier, le Cantique des Cantiques, très difficile à interpréter, et sans le Saint-Esprit qui nous aide, ce serait impossible. Il y a comme ça des choses dans les Saintes Écritures qui nécessitent vraiment l'aide de l'Esprit-Saint. Donc, nous arrivons au chapitre 4, et ce chapitre est beaucoup, beaucoup trop long pour pouvoir le faire sur un CD. Ça va nécessiter deux CD. Nous ferons, si possible, aujourd'hui, les versets 1 jusqu'au verset 8 et les versets 9 jusqu'au verset 16. Ce sera dans le prochain CD. Donc, chapitre 4, verset 1. Que tu es belle, ô mon ami, que tu es belle. Tes yeux ressemblent à des colombes dessous ton voile. Ta chevelure est comme un troupeau de chèvres au flanc du mont Galade. Le chapitre 3 faisait la part très belle aux paroles de l'épouse. Mais maintenant c'est au tour de l'époux. Il commence par dépeindre avec passion son amour et son admiration pour l'épouse. Le chapitre entier, à l'exception du dernier verset, est réservé à l'époux. Que tu es belle, ô mon ami, que tu es belle. Et bien derrière ces paroles, alors que le Seigneur admire son épouse, on sent le fameux en vérité, je vous le dis. La répétition donne donc une force à ces mots. Quand il créa le monde, il lui suffit d'ordonner une fois. Mais au travers de son amour pour nous, il répète ses éloges. Combien ne devrions-nous pas répéter nos expressions de louange pour le glorifier ? Tes yeux, oh oui, tes yeux ressemblent à des colombes dessous ton voile. Comme dans le chapitre 1, verset 14, le Seigneur exprime son éblouissement devant la beauté des yeux de l'épouse. N'oublions pas que la colombe est un oiseau de paix, tendre et délicat. Dans la Genèse, il nous est dit que Léa avait des yeux délicats. Les yeux sont la fenêtre de l'âme. Si l'Esprit Saint, la colombe de la paix, remplit nos âmes, alors nos actions signaleront sa présence au tréfonds de notre être. En fait, tout se passe comme si l'épouse de Christ voyait au travers des yeux du Saint-Esprit. Généralement, les yeux sont représentatifs du discernement spirituel. Or, c'est par la puissance de l'Esprit-Saint que le chrétien qui en est rempli voit et il discerne les choses de Dieu. Avez-vous remarqué que lorsqu'il priait pour l'épouse, saint Paul demandait que Dieu lui accorde par le Saint-Esprit une entière sagesse et un plein discernement. Colossiens, chapitre 1, verset 9. N'est-il pas merveilleux que l'épouse soit décrite comme ayant les yeux d'une colombe qui représente le discernement, la perspicacité spirituelle. Ensuite, il est dit, ta chevelure est comme un troupeau de chèvres au flanc du mont Galade. La montagne de Galade était située à l'ouest du Jourdain. Elle est mentionnée pour la première fois dans Genèse, chapitre 31, versets 21 et 25. C'est le lieu où se réfugia Jacob quand il fuyait devant Laban, et où finalement celui-ci le rattrapa. Quand il est question de Galaad, c'est de la montagne qu'il s'agit. Ce sont deux mots qui désignent un seul et même lieu. Ce territoire a été divisé en deux. Une partie est allée aux Rubénites et aux Gadites, et l'autre moitié est allée à la demi-tribu de Manassé, selon Deutéronome, chapitre 32, versets 12 et 13. La première partie alla donc aux Rubénites et aux Gadites, et cela à cause de leurs très nombreux troupeaux, car quand ils ont vu que Galaad était idéal pour y faire paître le bétail, ils ont demandé à Moïse de leur donner ce territoire à l'ouest du Jourdain en héritage. Nombre, chapitre 32, versets 1 et 5. Dans le psaume 60, verset 7, l'Éternel s'écrie « Galaad, Galaad est à moi », selon la version Darby. La version Darby est une excellente version, très, très véridique, fiable. Du reste, ceux qui appartiennent à ce groupe méditent et croient très sincèrement chaque mot de la Sainte Bible. Ça ne veut pas dire qu'ils sont parfaits. Moi, je me pince le nez actuellement pour vous dire que moi non plus, je ne suis pas parfait. Galaad était déjà connu au temps de Joseph pour son baume très prisé qui valait de l'or et qui servait à la guérison. Lorsque les frères de Joseph se demandaient quoi faire de leurs frères, ils aperçurent une caravane d'Ismaélites arrivant de Galaad et dont les chameaux étaient chargés d'épices, de baume et de myrrhe, et qui se rendaient en Égypte. Genèse chapitre 37, verset 25. Il ne fait aucun doute que ce baume et cette myrrhe venaient de Galaad, près de l'endroit où vivait Jacob. Genèse 43, verset 11. Le baume de Galaad suffisait à tous les besoins d'Israël. Il aurait même pu exister un centre de santé du temps de Jérémie pour y soigner les malades. Jérémie chapitre 8, verset 22 et le chapitre 46, verset 11. Ce baume était tiré des arbres de cette partie de la région. Il est probable que lorsque elle broutait dans ces montagnes, les chèvres mangeaient les arbustes servant à la guérison. Pourquoi l'épouse est-elle donc comparée aux chèvres qui se nourrissent dans les montagnes de Galaad? De même que les chèvres avaient trouvé la source du baume de Galaad, pareillement, l'Église, dans la plénitude de sa puissance, ne souffrira d'aucun manque et puisera dans l'abondante réserve de guérison divine. En effet, l'Église qui sera revêtue de la puissance d'en haut aura trouvé le secret de la source du baume de guérison non seulement pour elle-même, mais elle sera capable d'atteindre d'autres pays au travers de missions de miséricorde et elle apportera la guérison aux nations. Dans quelques versions anglaises et allemandes, l'expression « au flanc du mont Galaad » est traduite par « qui mange sur le mont Galaad ». Pour ma part, je préfère cette traduction, car le secret de la puissance réside donc, croyez-moi, dans la source de notre nourriture. Or ici, il s'agit d'arbustes qui procurent la vie. Oui, il existe un baume en Galade qui restaure tous les blessés. Il existe un baume en Galade qui guérit l'âme malade du péché. Nous arrivons au verset 2. Là, il est dit, tes dents ressemblent à un troupeau de brebis passé aux mains des tondeurs qui reviendraient du lavoir. Et chacune d'elles a sa jumelle. Aucune n'est solitaire. Chers amis, nous avons tous été saturés de publicités du genre sourire Goldgate. Nous savons également que le visage le plus éclatant peut s'avérer parfois décevant lorsqu'il dévoile des dents cassées, noircies par le tabac. En effet, il existe dans tant de sourires. Une personne, voyez-vous, peut, par exemple, arborer un sourire parfois moqueur, pourquoi pas aussi dédaigneux et hautain, parfois méprisant et ironique, ou amusé ou satisfait de soi-même. Or, le sourire engage, et c'est celui de l'amitié, ça devrait être un sourire de l'amitié qui respire la joie. Ainsi, le sourire de l'épouse dévoile un visage détendu, exprimant le plaisir et la joie. Celui qui dévoile des dents parfaites ne craint pas la laideur. Ce n'est pas tout à fait mon cas. Pareillement, le sourire du chrétien ne devrait pas être gâché par des racines d'amertume ou par quelques laideurs du cœur. Quelle expression votre sourire révèle-t-il? Est-ce celle de l'inquiétude, de l'angoisse, peut-être de la haine ou de la pitié de soi? Nous connaissons tous l'expression « un chrétien triste est un triste chrétien ». Ça se dit dans toutes les langues. En effet, l'épouse du Cantique des Cantiques est tout sauf cela. Oh non! Elle est radieuse, souriante, heureuse, et elle est remplie d'allégresse. Nous arrivons au verset 3. « Voici tes lèvres comme un ruban écarlate. Combien ta bouche est charmante, et tes tempes ressemblent à des moitiés de grenades dessous ton voile. » Oui, nous pouvons suivre le fil écarlate d'un bout à l'autre de la Sainte Bible, et c'est toujours un signe de rédemption, et oui, un signe de rédemption qui parle du sang de Jésus-Christ. Oh, le sang, le précieux sang que Jésus versa pour moi sur la croix, tel un océan, je le vois, oui, je le vois par la foi. De même que les lèvres d'un mourant deviennent blanches et pâles dans la mort, de même l'Église ou la dénomination qui perd de vue la doctrine et le message du sang de Jésus rédempteur. Elle est donc vide, elle est sans aucune vie spirituelle. Car aussi longtemps que les lèvres de l'épouse de Christ annoncent le message du fil écarlate qui est contenu dans les Saintes Écritures, alors elle sait ce pourquoi Dieu l'a sauvée et ce qui l'a appelée à faire. Donc Ésaïe s'écrie « Malheur à moi, car je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Et il en toucha ma bouche et dit « ceci a touché tes lèvres, et ta faute est maintenant enlevée, et ton péché est totalement expié. Ésaïe, chapitre 6, versets 5 à 7, selon une version allemande. Il est donc dit dans les Proverbes, chapitre 10, 21, « Les lèvres du juste en repaissent plusieurs. » Proverbes, chapitre 10, verset 21, selon la version Darby. Implorons donc Dieu de nous accorder les lèvres d'Ésaïe, c'est-à-dire des lèvres qui annoncent le salut de notre Dieu au perdu et qui a montré au monde qui est dans le besoin le chemin qui mène à la vie éternelle. Ensuite, nous avons le verset 3 qui dit « Combien ta bouche est charmante ». Ce passage peut être mis en relation avec le chapitre 2, verset 14. Car l'Éternel aime nous entendre parler de lui. Ainsi, un passage merveilleux dit « Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre, et l'Éternel fut attentif, et il écouta, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour tous ceux qui craignent l'Éternel et qui respectent son saint nom. » Malachie, chapitre 3, verset 16. Personnellement, je n'arrive pas à comprendre les chrétiens qui n'aiment pas parler des réalités du Seigneur. Ainsi, peu de temps après mon mariage, je suis entré dans une région où j'ai découvert que les chrétiens n'aimaient pas du tout s'entretenir du Seigneur. Il m'arrivait de parler de lui et je sentais que c'était reçu avec beaucoup d'embarras. Même encore aujourd'hui, c'est quelque chose qui me dépasse. Fort heureusement, après de nombreuses années qui les ont vus traverser de grandes épreuves et de beaucoup de conflits spirituels, ces mêmes personnes ont été totalement transformées. Et aujourd'hui, elles parlent volontiers de l'Éternel et des affaires de Dieu. Les paroles de l'épouse du Seigneur sont donc assaisonnées de grâce. Alors là, on peut dire, parlons donc de Jésus, le roi des rois, c'est sûr, il est le Seigneur de tout Seigneur. Durant l'éternité, il est le grand Je suis. Il est la porte et le chemin. Il est la vérité, la vie. Parlons donc de Jésus et parlons-en toujours davantage. Et le verset 3 nous dit « Et les tempes ressemblent à des moitiés de grenade dessous ton voile. » La grenade, ça c'est un fruit du sacerdoce. Des représentations travaillées de ce fruit en bleu pourpre ou écarlate ornaient le bord de la robe de l'éphode, selon Exode chapitre 28, versets 33 et 34. Et lorsque la grenade est mûre, sa véritable couleur est le rouge. Or, le sommet des colonnes du temple de Salomon était également paré de grenades ciselées, selon 1 Roi, chapitre 7, versets 18 et 20. Le fruit en soi, qui renferme des centaines de semences, contient une quantité de jus qui était utilisé pour faire du vin et entrer dans la composition de certains remèdes. Bien sûr, à cause de sa connexion avec le sacerdoce royal, ce fruit est en quelque sorte l'image d'une justice généreuse. N'oublions pas que le Christ a porté la couronne d'épines sur sa tête. Or, ces épines ont percé son front pour que nos pensées soient libres de tout souci et de toute iniquité, ou plutôt inquiétude, excusez-moi. Alors je répète la phrase. Ces épines ont percé son front, pour que nos pensées soient libres de tout souci et de toute inquiétude. Ne sommes-nous pas souvent inquiets ? Moi, ça m'arrive assez souvent. Ça ne devrait pas. De fait, en prenant sur lui cette couronne d'épines, Jésus nous a donné à nous, qui sommes ses enfants, le pouvoir de renverser les imaginations, les raisonnements et tout ce qui s'élève contre la connaissance de Dieu et d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5. Et nous lisons aussi au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Philippiens chapitre 4, verset 8. Dieu nous a donné, il nous a donné le pouvoir de fermer la porte de notre intellect à tout ce qui n'était ni vertueux ni digne de louange. Oui, nous en avons réellement le pouvoir. Mais le secret de son origine, ce secret se trouve dans le front percé d'épines de notre Sauveur bien-aimé. Voici le sens précis du texte. De même que la bouche de l'épouse est pure parce qu'elle parle du Seigneur, de même ses tempes qui nous réfèrent à ses pensées sont comparées à la grenade qui est le fruit qui symbolise le sacerdoce. Qui plus est, dans Malachie, là nous lisons encore, est pour ceux qui pensent à son saint nom. Malachie, chapitre 3, verset 16, version Darby. Il y a une telle puissance dans le nom de Jésus. Non seulement nous avons à le prononcer avec autorité contre les œuvres de Satan, mais il nous faut également centrer sur lui notre méditation pour protéger notre pensée lorsque l'ennemi s'attaque à notre intelligence. Je répète parce que c'est important, écoutez bien. Il y a une telle puissance dans le saint nom de Jésus. Non seulement nous avons à le prononcer avec beaucoup d'autorité contre toutes les œuvres de l'ennemi, mais il nous faut également centrer sur lui notre méditation. Pourquoi ? Pour protéger notre pensée lorsque l'ennemi s'acharne sur nous, s'attaque à notre intelligence. Moi, je me rends compte parfois que mes pensées sont tout le contraire de ce que voudrait le Seigneur, et j'en ai honte. Alors, je me redresse avec l'énergie qui me reste, malgré mon grand âge, et je m'oppose avec violence à Satan. Nous arrivons au verset 4. Là, il est dit, « Ton cou ressemble à la tour du roi David, bâti comme un arsenal. 1000 rondaches y sont pendues, et tous les parois, ou, oui, je pense, sont des héros. » Je lis plutôt tous les pavois sont des héros. Je crois qu'il y a de la puissance dans l'obéissance, ça c'est certain. Surtout lorsque nous obéissons à Dieu et que nous marchons dans sa volonté pour nos vies. Là, nous avons la puissance devant Dieu et ainsi aussi devant les hommes. Cela est une bonne chose pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse, nous dit Jérémie dans Lamentations chapitre 3 verset 27. C'est pas toujours drôle de porter le joug dans sa jeunesse. J'en sais quelque chose. Jésus lui a exhorté: recevez mes instructions car je suis doux et humble de cœur. Car mon joug est aisé et mon fardeau est léger. » Saint Matthieu, chapitre 11, versets 29 et 30. Vous ne pouvez pas devenir un véritable disciple de Jésus-Christ sans être prêt à porter son joug. Nous ne devons pas redouter de porter le joug du Seigneur, car il nous a dit qu'il était aisé et léger. Lorsque les enfants d'Israël ont refusé d'obéir à Dieu, il les a traités de peuple au cou raide. Oh, ça m'est aussi arrivé. Quelle beauté le Seigneur peut-il bien trouver dans le cou de son épouse? Il dit qu'elle est comme la tour de David, une tour puissante du moment qu'elle accepte de porter son joug. Comment présente-t-il ce joug? Il le présente comme 1000 rondaches, c'est-à-dire comme de petits boucliers ronds qui sont utilisés pour la protection. Donc, vous pouvez là voir que son joug est petit et plutôt facile à porter, car il ne s'agit pas ici d'un grand et épouvantable lourd bouclier qui ressemble, rappelez-vous, à celui de Goliath. C'est néanmoins le bouclier d'un guerrier puissant. Obéir au Christ Jésus, cela signifie de le suivre où qu'il aille. Et nous pouvons dire « Oui, Seigneur », avec ou sans réputation, toujours guidé par ta sainte parole fidèle, notre bâton, notre bouclier et notre épée, nous marchons à ta suite. Dans le silence de la nuit solitaire, dans l'étincellement de la lumière du jour, au travers des étranges sinuosités de la vie, nous marchons à ta suite. Mon Seigneur et Maître, montre-moi le chemin, ne laisse pas mes pieds s'égarer sur la route qui mène au monde présent. Nous marchons à ta suite. Tu as emprunté ce chemin avant nous, et nous suivons la trace de tes pas. Toujours dans ta lumière, nous allons de l'avant. Nous marchons à ta suite. Nous arrivons au verset 5. Comme deux pharaons sont tes deux seins, comme deux jeunes gazelles qui sont jumelles et qui vont paraître parmi les lys. Je voudrais plutôt dire qu'ils vont paître tranquillement, en paix, parmi les lys. Alors voyez-vous, avec ce verset, s'achève momentanément la description de l'épouse. C'est un peu comme si l'artiste n'avait peint que le haut du portrait de l'épouse, ou comme si le sculpteur n'avait ciselé que le buste de son sujet. On peut voir cela dans des musées. Plus loin, dans le chapitre 7, se poursuivra et s'achèvera l'évolution, ou plutôt l'évocation de l'épouse. Car voyez-vous, pour l'instant, elle va s'arrêter sur une allusion à l'amour et aux affections du chrétien. Alors, nous savons que les saints sont un symbole de l'amour. Ça, c'est clair. Ici, l'amour du chrétien pour son sauveur est absolument comparé à de jeunes gazelles. Nous l'avons déjà mentionné précédemment. La gazelle était célèbre pour son charme. Or, ce qui est le plus charmant chez un chrétien, c'est son amour pour le Seigneur. Et vous remarquerez qu'il est question ici de jeunes gazelles. Ça veut dire que l'amour du nouveau chrétien est de même très remarquable. Nos cœurs ne tressaillent-ils pas? Et je pense que c'est vrai. Nos cœurs sont émus devant un nouveau-né en Christ qui qui manifeste un amour tellement réel pour le Seigneur Jésus-Christ, un amour aussi tendre qu'une jeune gazelle. Le nouveau-né et la gazelle sont peut-être tous les deux un peu timides au début, mais c'est toutefois un amour totalement dénué de crainte. On peut être timide, mais dénué de crainte. Le Seigneur dit à l'église d'Éphèse, « Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. » Apocalypse, chapitre 2, verset 4. Il s'agit d'un amour assez similaire à celui que avaient les Israélites pour l'Éternel dans le désert. Quand nous lisons par exemple dans Jérémie, « Je me souviens de ton amour au temps de ta jeunesse et combien tu m'aimais au temps de tes fiançailles lorsque tu me suivais à travers le désert dans une terre inculte. » Jérémie chapitre 2 verset 2. Les gazelles vont paître parmi les lys. Eh oui, l'amour du chrétien est renforcé par sa communion. C'est absolument nécessaire qu'il ait une communion forte avec son Seigneur à l'image de celui qui fait paître parmi les lys. Chapitre 2 verset 16. Chers amis, puisse notre amour, votre amour pour le Seigneur, rester toujours vivace dans nos cœurs, dans vos cœurs, aussi frais et vigoureux que lors de notre premier élan amoureux, de notre première rencontre avec Jésus, notre Sauveur bien-aimé. Un soir, alors que je me promenais, je passais près d'un jeune couple. Et ce jeune couple, on pouvait voir, c'était évident, ce jeune couple était très épris l'un pour l'autre. Et je n'ai pas pu m'empêcher de dire combien cela m'évoquait mon premier amour pour le Seigneur. Or, une voix intérieure m'a dit, « On dirait que tu ne l'aimes plus tout à fait comme autrefois. Tu as un peu changé. » Et bien sûr, le moment, je refusais de l'admettre et j'ai commencé à pleurer. J'ai réfléchi pendant quelques semaines. Je ne l'avais pas perçu moi-même comme cela, mais au fond de moi, je savais que c'était vrai. Pourquoi en est-il ainsi? J'avais cessé de paître parmi les lys comme j'aurais dû. J'avais négligé ma communion avec le Seigneur. Rien dans mon environnement ni mon entourage n'avait cette onction qui inspire à marcher profondément avec le Seigneur. Je me mis à rechercher Dieu sincèrement et avec ferveur. Et je crois que c'est que là, le Seigneur traversa tout mon être par l'Esprit Saint. Et il m'a ramené dans son intimité pour être en communion avec lui. Oui, on s'écarte parfois pour quelque temps du Seigneur. Cela m'est aussi arrivé et j'ai honte de vous le dire. Nous arrivons au chapitre 4, verset 6. Quand viendra la fraîcheur avec la tombée du jour, et quand les ombres s'estomperont, je m'en irai vers la montagne de Myre, vers la colline encensée. Dans le dernier verset du deuxième chapitre, l'épouse exprimait son ardent désir de voir le Seigneur revenir. Revenir au travers des mêmes paroles qu'elle utilise maintenant. Elle ajoute ici toutefois qu'elle se rendra jusqu'à à la montagne de Myre et la colline encensée. C'est ce qu'a fait notre Seigneur Jésus quand il avait fini d'accomplir son œuvre ici-bas et qu'il a remporté toute la victoire et qu'il est remonté au ciel vers la montagne de Myre et la colline encensée pour s'asseoir à la droite du Père. La myrrhe, elle parle à la fois de souffrance et d'onction. C'était l'un des ingrédients de l'huile d'onction sainte. Notez Exode chapitre 30, verset 23. On l'utilisait pour la purification des femmes. Notez Esther chapitre 2, verset 12. On l'utilisait aussi comme parfum. Psaume 45, verset 8 et Proverbe chapitre 7, verset 17. Elle fut l'un des présents qui avaient été offerts, rappelez-vous, à Jésus par les mages. Elle fut présentée à Jésus sur la croix, mélangée à du vin. Saint Marc, chapitre 15, verset 23. Nicodème apporta un mélange d'environ 50 kilos de myrrhe et d'aloé pour embaumer le corps de Jésus. Ça coûtait une fortune. Il faut bien comprendre que notre Seigneur souffrit terriblement. Il alla jusqu'au mont de la souffrance, appelé le calvaire, afin que nous puissions nous rapprocher du mont de sa gloire. Mais d'autre part, nous en avons déjà parlé, la myrrhe est une expression de l'onction divine. La présence éternelle de Dieu est la source de toute puissance et onction. Nous nous rappelons comment Dieu descendit sur le mont Sinaï avec puissance et gloire. Exode chapitre 24. Sa présence couvrait cette montagne au point que le peuple ne pouvait pas toucher ni s'approcher du Sinaï. Des limites ont dû être fixées de peur qu'il n'avance trop loin et qu'il meure. Cette montagne de myrrhe n'est bien sûr aussi qu'un type de la véritable montagne, c'est-à-dire celle de la surabondante puissance divine, désormais ouverte à tous, comme nous le lisons dans Hébreux, je crois au chapitre 12. Vous ne vous êtes pas approchés, en effet, d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasé par le feu, mais bien au contraire, vous vous êtes approché de la montagne de Sion et de la cité du Dieu vivant, c'est-à-dire la Jérusalem céleste, avec ses myriades d'anges. Hébreux chapitre 12, versets 18 et 22. Cette montagne de puissance a été rendue accessible à la véritable Église de Jésus-Christ, et cela le jour de la Pentecôte. Depuis lors, nous avons désormais accès aux réserves inépuisables de puissance et d'onction. Nous arrivons au verset 6 qui dit ceci. Vers la colline encensée. Vous lisez bien cela avec moi. Verset 6 dit « Vers la colline encensée ». Eh bien, l'encens est une substance collante qui suinte de l'écorce d'un arbre appelé arborturis. Elle est cassante, scintillante et d'un goût amer. Elle était et elle est surtout utilisée comme offrande sacrificielle sous forme de fumée, Exode 30, versets 34 à 36. L'encens brûle assez longtemps, et sa flamme est stable et régulière. La lumière qui brille de manière ferme et assurée est agréable à Dieu, tel devait être donc notre témoignage de bonne odeur. L'encens entrait dans la composition de l'huile odorifiante qui brûlait continuellement dans le temple. Pour la fabriquer, Il fallait suivre les directives très strictes de l'Éternel. De tous les ingrédients, l'encens semble être le plus important puisqu'il est mentionné souvent et il était parfois même utilisé seul lors d'offrandes. Sans l'action parfumante de la fumée d'encens, l'offrande d'animaux consumée par le feu aurait certainement répandu une odeur fétide. L'encens est donc un symbole du sacrifice de l'époux qui, associé à son intercession, rend nos prières acceptables devant Dieu. Comme l'encens brûle librement, il est l'image de notre Seigneur qui donne et qui a donné sa vie librement. La flamme constante qui brûle avec régularité sans jamais s'éteindre, parle du sacrifice éternel du Seigneur. Nous sommes purifiés du péché et cela grâce au sacrifice que Jésus-Christ a offert de son propre corps une fois pour toutes. Hébreux chapitre 10 verset 11. Il est remonté au ciel et cela pour intercéder pour les saints. Il intercède actuellement pour toi qui écoutes. Il est toujours vivant pour intercéder en votre faveur, en notre faveur auprès de Dieu le Père. Hébreux chapitre 7, verset 25. Son sacrifice accompli et son constant ministère pour nous s'identifie par conséquent à la colline encensée. C'est son œuvre qui se poursuivra jusqu'à l'aube, lorsque les ombres s'enfuiront. Et le verset 7 nous dit « Que tu es belle, ô mon ami, oh oui, tu es parfaitement belle, sans un seul défaut, selon certaines versions allemandes. » Oui, tout se passe en sorte comme si le Seigneur voyait d'avance ce matin où les ombres s'enfuiront et lorsque il ressemblera et qu'il rassemblera toute l'Église auprès de lui. Ça va changer lorsque le Seigneur va rassembler son Église auprès de lui. Il regarde la véritable épouse du Christ et il voit une église glorieuse, rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais étant digne de Dieu et irréprochable, selon Éphésiens, chapitre 5, verset 27. Et on peut dire qu'en ce beau matin qu'il attend, nous serons face à lui. Les entends-tu venir, mon frère, ma sœur, affluant sur les rampes de lumière, en tenue glorieuse, resplendissante, en vêtements purs et blancs, lavés par le sang? Oui, quelle glorieuse église, sans tache ni ride, lavée dans le sang de l'agneau. Il est dit au chapitre 4, verset 8, « Ma fiancée, tu vas venir avec moi. Tu vas venir du Liban, oui, du Liban avec moi. Et tu contempleras la plaine du sommet de l'Amana, du Sénir et de l'Hermon, là où les lions ont leur retraite et les panthères se cachent dans les montagnes. » Eh bien, là, nous voyons trois noms de montagnes qui sont donnés dans ce seul verset. Et chacune d'elles appartient à cette chaîne de montagnes du Liban. La partie orientale était connue comme étant, on peut dire, vers le soleil levant. selon Josué, chapitre 13, verset 5. Il y a deux chaînes de montagnes différentes au Liban, d'environ 140 km de long, qui s'étendent parallèlement du sud-ouest au nord-est. Le mot Liban signifie blanc. On suppose que ce nom a été donné à cause des neiges qui couvraient son sol une bonne partie de l'année ou à cause des falaises et des pics de calcaire blanc. Amana signifie « alliance ». On pense qu'elle appartenait à ces montagnes et était la source d'un fleuve qui s'appelait l'Abana. Sénir, c'est le nom amoréen du mont Hermon. Son nom signifie « montagne enneigée ». L'Hermon est la plus haute montagne de la chaîne orientale. C'est celle que l'on voit le plus aisément. Et c'est également la plus belle de toutes les montagnes de Palestine et elle possède trois sommets. Comme elle est située près de Césarée de Philippe, on peut considérer qu'elle a été le site de la transfiguration, au moins en partie. L'Hermon, il atteint 2814 mètres. Mais pourquoi le Seigneur attire-t-il notre attention vers ces montagnes et nous appelle-t-il au sommet de ces deux lieux élevés du Liban? Pourquoi? Examinons plus attentivement la signification de leur nom, Alliance et Montagne enneigée. Pour commencer, il nous appelle sur la montagne de son alliance qui est l'Amana. Lorsque nous désirons marcher avec le Seigneur, monter jusqu'au calvaire, le lieu de son alliance, ça c'est le premier pas. Dieu nous a promis qu'il établirait une nouvelle alliance avec nous. Et Jésus-Christ en est le médiateur. Alléluia. Hébreux chapitre 12, verset 24. Depuis la montagne de son alliance, c'est-à-dire le calcaire, on peut dire. Il nous appelle à gravir. J'ai dit le calcaire, ma langue a fourché, je vous demande pardon. Depuis la montagne de son alliance, c'est-à-dire le calvaire, c'est cela, le calvaire. Là, il nous appelle à gravir la montagne enneigée. Et dans Ésaïe chapitre 1, verset 18, il nous est dit, « Si vos péchés sont rouges comme l'écarlate, apprenez ça par cœur, ils deviendront aussi blancs que la neige. » Oh, alléluia, merci Seigneur. N'est-il pas merveilleux de savoir que notre âme et aussi blanche que la neige, propre et purifiée devant Dieu. Il est donc absolument impossible d'expérimenter cela dans l'avenir sans le savoir. Pensons ensuite que c'est sur la montagne enneigée qu'a eu lieu la transfiguration. Nous lisons que les vêtements de Jésus sont devenus d'une blancheur éclatante, voire même plus blancs que la neige. Saint Marcos, chapitre 9, verset 3, selon la version Darby. C'est le mont Hermon, c'est le sommet de toutes les montagnes, et c'est là où nous apprenons à connaître le Christ véritable dans toute sa gloire. Combien cherche-t-il à nous conduire de gloire en gloire jusqu'à ce que nous puissions parvenir à sa ressemblance? Ne demeurons pas éternellement sur la montagne de l'Alliance. Nous devons aller de l'avant et nous devons marcher avec Dieu. Cherchons-le et demandons-lui de nous inclure parmi ce petit nombre d'élus qui cherchent à le connaître toujours davantage. Et c'est pourquoi laissons l'enseignement élémentaire de la parole de Christ, tendons vers la perfection. Hébreux chapitre 6, verset 1. Là, nous sommes au sommet de la plus haute montagne et c'est le zénith de l'expérience chrétienne. C'est également le sommet qui fait face à l'Orient, sur qui tombent les premiers rayons du soleil levant. C'est de là que nous attendons l'aube et c'est de là que les ombres disparaissent. Oui, ombre qui assombrissait nos vies et qui jetait de l'obscurité sur nos âmes, vous n'avez plus d'emprise sur nous. Lorsque nous saisissons la main de notre maître et que nous le laissons nous amener, nous mener sur cette montagne. Pour terminer, le verset 8 dit « Là où les lions ont leur retraite et les panthères se cachent dans les montagnes. » Nous pouvons dire « De nombreux animaux sauvages vivaient à cette époque dans les montagnes du Liban, selon 2 Rois, chapitre 14, verset 9, et Habacuc, chapitre 2, verset 17. » Voyez-vous, avant de terminer cette première partie du chapitre 4, puisque j'ai dit que ce serait impossible de mettre tout le chapitre sur un CD, nous savons que beaucoup de chrétiens craignent de gravir des sommets semblables à ceux dont nous venons de parler. Ils demeurent sur les plus bas sommets des expériences chrétiennes et ne grimpent jamais plus haut, jamais vers les hauteurs avec Dieu. Une seule chose les arrête, c'est le danger causé par l'ennemi. Il est certain que si nous choisissons de marcher près des fosses aux lions et au milieu des repères des léopards, nos âmes seront exposées face à Satan qui rôde tel un lion rugissant, cherchant qui dévorer, selon la première épître de Pétre, chapitre 5, verset 8. Et au bout de la route, si nous ne décidons pas, alors le jugement, c'est la destruction qui attend de l'égaré et le rétrograde. J'étais, et je faisais partie un certain temps, des rétrogrades. Je remercie le Seigneur qu'il m'a repêché. Je lui dois, je crois qu'on dit parfois dans le langage français, je lui dois une fière chandelle. Oui, je serai pour eux semblable à un lion et comme un léopard. Je serai aux aguets sur leur chemin. Je les dévorerai là comme une lionne. Ils seront mis en pièces par les bêtes sauvages. Osée chapitre 13, versets 7 et 8. Par contre, chers amis, écoutez bien. L'âme qui va de l'avant avec Dieu le Père, avec son Fils Jésus-Christ, est sauvée et elle est à l'abri de ses dangers. Chers amis, levons-nous ensemble pour gravir avec Dieu le Père, avec son Fils Jésus-Christ et avec le Saint-Esprit, les montagnes jusqu'aux cimes. Amen. Nous allons prier ensemble et dans le prochain CD, Dieu voulant demain matin, eh bien là, nous allons avoir, chers amis, la suite, verset 9 jusqu'au verset 16. Prions, si vous le bien, voulez bien, ensemble. Maintenant, prions. Et vous savez, cette prière, elle est pour chacun de vous qui écoutez et vous pouvez l'adapter à vos besoins. Donc, je vais essayer de prier comme si c'était pour vous, mais aussi pour moi. Seigneur Dieu, mon âme magnifie le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu qui est mon Père spirituel. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple et de ce qu'il a suscité un puissant sauveur. Seigneur, glorifie ton saint nom. Seigneur, permets que le Saint-Esprit nous inspire dans nos prières souvent très maladroites, surtout les miennes. Je crois, aide-moi, c'est valable pour chacun qui écoute, pour chacune qui écoute. Je crois, aide-moi dans mon incrédulité. Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir au monde. Ô Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Seigneur, Fils de David, aie pitié de moi. Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis pécheur. Seigneur, si tu le veux, tu peux me nettoyer de tout ce qui te déplaît. Tu connais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Je remets mon esprit entre tes mains. Ô Seigneur, aide-nous et aie compassion de nous. Seigneur, sauve-nous, car sans toi, nous périssons. Fils de David, aie pitié de nous. Seigneur, tu laisses maintenant aller ton serviteur en paix selon ta sainte parole, car mes yeux ont vu ton salut. Gloire soit à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre, bonne volonté envers les hommes. Père Saint, garde en ton saint nom tous ceux que tu m'as donnés par la foi, dans la pensée et les prières. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal qui domine dans ce monde. Sanctifie-les par ta vérité, car ta sainte parole est l'unique vérité. Amen. Amen. Chers amis, merci pour la patience que vous avez vue d'écouter. Et que le Seigneur vous bénisse richement, car il vous aime. Et disons ensemble, merci Seigneur. Amen. Amen.